Le journal intime, c'est un moyen de fixer l'instant, puisqu'on écrit ce qui s'est passé dans la journée, c'est une manière ensuite de le relire plus tard et d'apprécier ce qu'on a vécu. C'est un bonbon de nostalgie, c'est trop cool.
Cher journal, je t'écris aujourd'hui pour te parler de toi. Que tu sois un vieux cahier à spirale caché sous mon matelas ou un joli carnet protégé d'un petit cadenas. Que l'écriture qui te remplit soit enfantine, maladroite ou soignée, que les mots y soient tracés au stylo ou à la plume, ou même tapés sur un ordinateur. C'est souvent à la première personne que l'on écrit son journal intime. Des textes très personnels où l'on se livre sans filtre et qui ne sont pas forcément destinés à être lus par d'autres. À l'heure des messageries instantanées, tenir un journal intime peut sembler une pratique désuète, dépassée. Pourtant, selon le ministère de la Culture, nous sommes plus de 4 millions à le faire ou à l'avoir fait au cours de notre vie. D'une manière traditionnelle, manuscrite, ou plus en phase avec l'époque, en images, en vidéo, sur les réseaux sociaux, l'intime devenant alors paradoxalement public.
Il y a aussi quelque part un petit peu ce fantasme de laisser pour la postérité, pour les futures générations, et qu'un jour, dans très longtemps, quand on sera décédé et que ça n'aura peut-être plus d'impact, quelqu'un lise nos écrits. Nos petits-enfants, leurs petits-enfants découvrent notre journal.
Dans ce numéro d'Interception, nous allons plonger dans l'intimité de ces récits, en allant à la rencontre de diaristes, c'est ainsi que l'on appelle celles et ceux qui écrivent des journaux intimes, et d'archivistes qui se sont donné comme mission de les préserver. Cher journal, c'est un reportage signé Sophie Parmentier qui est allée feuilleter pour nous de précieux carnets.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Je m'appelle Célestine, je suis en deuxième année de prépa littéraire et je me décrirais plutôt comme quelqu'un de joyeux qui adore partager des moments de vie avec d'autres personnes.
Et vous avez quel âge ?
Eh ben, j'ai 19 ans et j'ai eu beaucoup de mal à avoir 18 ans aussi.
Vous acceptez de me montrer votre journal intime alors ?
Oui, oui.
Il est caché dans votre chambre ?
Oui, il est caché. Ben, c'est le principe d'un journal intime, c'est que ça reste secret.
Je vous laisse aller dans la cachette.
J'y vais.
Je peux vous suivre jusqu'à la cachette ?
Oui, oui, oui.
Faut grimper sur une chaise pour attraper le journal intime.
C'est ça.
Vous avez plusieurs carnets, en fait.
Bah, j'écris depuis que je suis toute petite, donc...
Donc votre premier journal, c'est un carnet à spirale, une couverture violette et des cœurs roses.
Mmh, c'est ça.
Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à écrire ?
Eh ben, j'avais 7 ans.
On peut ouvrir ? Je m'assieds à côté de vous ?
Oui, allez-y.
J'aimerais bien que vous me lisiez quelques mots.
Première page, donc le 31 décembre 2012. C'est pas de la grande poésie. Et surtout, heureusement que c'est pas filmé parce qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Donc, aujourd'hui, je me suis disputée avec ma maman. Elle a dit que je devais rester dans ma chambre. Et à 19h30, je ferai la fête chez un copain à maman. Et là-bas, il y a des copains à moi. Ils s'appellent Thibaut et Clément. Et on va faire de la danse. Et on a joué au nerf. Et après, Clément s'est endormi. Et après, on était partis. Et c'est des choses assez banales, en fait, quand j'y repense. Mais de voir ça écrit, ça me remémore des souvenirs. C'est assez nostalgique, en fait. Je pense que du coup, j'ai commencé à écrire... Au début, je pense, pour moi, pour me dire « Ah, ben, faut que je me rappelle des choses que je fais. » Mais la preuve en est, c'est qu'après, j'avais besoin d'écrire mes sentiments.
Là, on est 2 ans plus tard. On sent que votre écriture a changé, que vous avez grandi. 2015.
Eh ben, j'avais 10 ans. Là, on est déjà à la fin de mon premier carnet. Et dans le deuxième, on ressent beaucoup plus ce sentiment que j'arrivais pas à trouver ma place dans cette grande famille. Parce que ma mère, du coup, elle s'est mise avec mon beau-père. Et je pense que ça a été compliqué parce que mon beau-père avait déjà 2 enfants. Et donc, le fait de passer de ma sœur et moi à une famille de 6, je pense que ça m'a beaucoup touchée. Et c'est aussi le moment où, du coup, je vais vivre mes premières relations dites amoureuses, mes premières relations amicales, mes premières disputes avec mes copines. Enfin, je suis un peu dramatique dans mes journaux. Je pense que je suis très sincère et que écrire, là, ça me permettait vraiment d'exprimer à 100% mes émotions. Parce que faut que ça sorte. Et c'est aussi grâce au journal que ça permet d'extérioriser, en fait. Donc là, c'est le 17 décembre 2016. Donc je dis bonjour, cher journal. Et là, je disais que je partais chez mon papa. Moi, mon journal intime, je le considère un peu comme une personne. Je lui dis bonjour, je lui dis excuse-moi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit. C'est vraiment comme si c'était mon ami à qui je parlais en cachette chaque soir, chaque journée. Là, cher journal.
Cher journal.
Cher journal.
Bon, comment te dire qu'hier, ça a été une drôle de journée. Je suis allée rendre les affaires de mon copain, enfin du coup de mon ex-copain. Ensuite, je raconte un petit peu comment ça s'est passé. J'ai pleuré. Et je finis cette journée en disant que le reste de ma vie est vraiment assez flou.
Le reste de ma vie est assez flou.
Et avec ma signature.
Votre journal, c'est un peu comme un miroir.
Ah oui, oui, oui. Je pense que la personne qui trouve mes journaux, elle a vraiment un accès direct à moi, à la façon dont je fonctionne, de penser. C'est un ami qui sait tout de moi.
Je m'appelle Blanche et j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année d'études supérieures. Je fais des études de lettres. C'est sympa.
Comment ça a commencé votre histoire, vous, avec les journaux intimes ?
J'étais dans une librairie avec ma mère qui m'avait acheté un petit cahier. J'avais 12 ans et j'étais un peu déprimée, donc elle m'a conseillé d'écrire mes pensées et c'est comme ça que ça a commencé.
Alors c'est un carnet clair, à spirale.
Alors il y a écrit « Bonjour, ô toi qui lis ceci, dans ce journal il y aura toutes sortes de révélations, alors prends garde, va-t'en immédiatement et ne le lis plus. Attention, je t'aurais prévenu. »
Qu'est-ce que vous écrivez dans votre journal ?
Alors, je raconte tout ce qui me passe par la tête, mais aussi des anecdotes avec mes copines. J'appelle officiellement ce journal intime « Jérémiade d'une géniarde ». Alors là, il y en a un, c'est le 19 juin, et j'avais écrit l'heure parce qu'il était assez tard, c'était 2h du mat. Je pense que je dois travailler sur mon rapport au temps qui passe. Je n'arrive pas à imaginer que certaines relations fanent ou se brisent, et que je ne peux rien y faire. Alors je lis sans cesse des vieilles conversations avec des personnes avec qui je ne parle plus. J'ai ce rêve constant de pouvoir faire comme dans les jeux vidéo, et sauvegarder ma vie en la recommençant si elle ne me plaît pas.
Et alors vous, Blanche, vous avez plusieurs sortes de journaux intimes. Il y a ces journaux papier, là, qui sont devant vous. Et je crois que vous vous êtes mis au dessin aussi. Vous avez un récit intime sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me montrer.
J'ai un compte Instagram, c'est la page de Blanche en tout petit. Et j'y mettais des petits bouts de BD, donc des petites anecdotes qui se passaient dans ma vie.
Donc c'est vous que vous dessinez. Vous êtes le personnage principal. Petite fille aux cheveux bruns. Un peu ébouriffé.
C'est vraiment un journal intime pour les gens que je connais. Et donc, bah oui, c'est complètement moi. C'est mon personnage, mais c'est aussi ma vie. C'est autobiographique.
Dans ces dessins-là, on voit que vous faites donc une insomnie. On voit les heures sur le radio réveil, 3 heures du matin. C'est souvent que vous écrivez dans votre journal intime ou que vous dessinez la nuit, tard, le soir.
La nuit, c'est souvent le moment où les pensées resurgissent. C'est le moment parfait, opportun, pour écrire sur le journal ou pour dessiner.
C'est vraiment le premier moteur pour vous, en fait. mettre dans une case quelque part. Ce qui vous préoccupe, ce qui vous envahit, c'est le poser quelque part, à l'écrit ou dans une bulle de dessin. C'est ça pour vous la fonction du journal intime ?
La mienne en tout cas, c'est pouvoir me débarrasser des émotions, donc ne plus y penser. C'est aussi marquer l'instant. Donc pouvoir écrire un truc qui s'est passé ce jour-là ou une pensée. Et ensuite revenir quelques années plus tard, le relire et me dire « Ah, c'était quand même sympa » ou « Ah, depuis le temps, j'ai évolué ». Donc c'est une double fonction, qui se complète.
Est-ce que ça vous fait du bien, le journal intime ?
Ah oui, mais c'est pour ça que j'écris. C'est principalement parce que ça me fait du bien, c'est personnel, c'est réparer ce qui se passe dans ma tête. Donc c'est une sorte de défouloir un peu. C'est pour ça que des fois c'est raturé, des fois il y a des petits... j'écris mal, parce que je fais pas attention, c'est quelque chose... Il y a que moi qui peux lire, donc il y a pas ce besoin de performance où il faut que ce soit joli parce que les autres le voient. Si je l'écris, c'est pour me faire du bien. Les psys, c'est trop cher, donc prenez des journaux intimes.
Et écrire pour se raconter soi-même, il n'y a pas un truc un peu narcissique ?
Ah ouais, hein. Complètement égocentrique, hein. Vraiment.
Journal d'Henri Bey, alias Stendhal, le 18 avril 1801.
J'entreprends d'écrire l'histoire de ma vie jour par jour. Je ne sais pas si j'aurai la force de remplir ce projet déjà commencé à Paris. Voilà déjà une faute de français. Il y en aura beaucoup. Parce que je prends pour principe de ne pas me gêner et de n'effacer jamais.
J'arrive dans une petite allée au bord d'une route dans le sud-ouest, pas très loin de Toulouse. Je vais aller voir une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur les journaux intimes. Elle nous reçoit chez elle.
Je m'appelle Anaïs Opex, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et j'ai rédigé une thèse qui a été soutenue en 2013 qui s'intitule « Exposition de soi, journal intime et reconfiguration de l'intimité à l'heure d'Internet ».
Donc la thèse, vous l'avez sortie là, elle est sur la table, elle est impressionnante. Hein, combien de pages ?
Avec les annexes, 700 pages. Donc je suis repartie à l'orée du 19e siècle avec les premiers journaux intimes manuscrits, où on est dans un rapport de soi à soi uniquement. C'est entre 1800 et 1820. Et c'est Joubert, Maine de Biran, Benjamin Constant et Stendhal qui sont les premiers... à inventer cette forme où on a une écriture fragmentée avec des entrées qui correspondent aux dates, donc le journal intime tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ils inventent un petit peu la forme du journal intime. Et après, ces journaux vont être publiés en fait, mais après leur mort. Donc eux n'ont pas envisagé le fait d'être publiés. Et ces journaux en fait vont servir de modèle aux générations suivantes. Puisque les diaristes suivants ne sont plus dans l'innocence, puisqu'ils savent que les journaux intimes sont potentiellement publiables.
Mais à l'époque, tous les anonymes qui écrivent, eux, n'imaginent pas que ça puisse être publié. Et on bascule au XXIe siècle avec les réseaux sociaux et avec les anonymes qui se mettent à publier leurs journaux intimes en ligne, c'est ça ?
Alors pour moi, on bascule bien avant, parce que milieu du XXe, on a le journal d'Anne Frank. Journal d'Anne Frank, bon, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est le journal d'une anonyme, en fait, hein, d'une adolescente juive qui va vivre cachée pendant des années, pendant la guerre, et elle écrit ce journal qu'elle tenait déjà avant. Donc en mars 1944, elle entend à la radio de Londres le ministre néerlandais de l'enseignement, qui est exilé à Londres, qui explique qu'après la guerre, il faudrait rassembler et publier tout ce qui a trait aux souffrances du peuple néerlandais pendant l'occupation allemande. Et il cite entre autres exemples le journal intime. Et là, Anne Frank en parle dans son journal, hein, et elle dit, bah voilà, je me dis que ce journal, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc elle se lance à cette période dans une réécriture de son journal, où elle va centrer sur tout ce qui, à son sens, va être intéressant d'un point de vue un petit peu documentaire, et elle va enlever tout ce qui est plus intime. Et le journal d'Anne Frank, on voit bien que comment il est traversé par l'extérieur, en fait, hein, comment autrui reste très présent. Hein.
Otto Frank, en 1970, sur Radio-Canada.
Anne a écrit son journal et un jour, elle m'a dit « Papa, tu sais, j'écris mon journal et je ne veux pas qu'on voit ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors j'ai dit « J'ai là ma serviette. » Je n'ai pas besoin maintenant. Prends ton journal, mets tout dedans et le soir, tu le mets à côté de mon lit. Je te promets que personne de nous va regarder ce qu'il y a. Naturellement, elle savait, quand on promet, on tient sa promesse.
Samedi 20 juin 1942. C'est une sensation très étrange pour quelqu'un dans mon genre d'écrire un journal. Non seulement je n'ai jamais écrit, mais il me semble que, plus tard, ni moi ni personne ne s'intéressera aux confidences d'une écolière de 13 ans. Mais à vrai dire, cela n'a pas d'importance. J'ai envie d'écrire. Et bien plus encore de dire vraiment ce que j'ai sur le cœur, une bonne fois pour toutes, à propos d'un tas de choses.
Depuis quelques années, ceux qui écrivent leur journal intime sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'ils partagent, eux, ils assument carrément le fait d'avoir le regard direct d'autrui et de partager ce qu'ils ressentent de l'intérieur, en fait, en direct.
Oui, alors ce qui est intéressant avec ces journaux intimes en ligne, c'est que certes, ils sont publics, pas tous d'ailleurs. Moi, j'ai travaillé sur un site qui s'appelle journalintime.com. Il est en ligne, mais il faut avoir l'adresse du journal pour le trouver. Et en tout cas, ce qu'on peut dire sur ces journaux intimes-là, sur ce site-là, c'est que les gens, certes, écrivent en public, mais d'une façon anonyme et invisible. Donc, ils sont lus par des lecteurs, certes, mais par des lecteurs qui ne connaissent pas et qui ne rencontreront jamais. Il y a quand même un désir d'être lu. Donc, pour moi, dès la pratique manuscrite, il y a quand même un destinataire. Ne serait-ce que le cher journal, hein, il y a souvent une entrée dans les journaux intimes. On s'adresse à un lecteur un petit peu fantasmé qui saurait comprendre nos états d'âme et qui saurait nous comprendre en fait finalement. Donc il y a quand même déjà une ambiguïté dans l'énonciation, le fait de s'adresser à quelqu'un. La plupart des gens le conservent un petit peu jalousement dans un placard, etc. Et il y a aussi quand même cette image d'Épinal du journal intime qui est retrouvée dans le grenier par les arrière-petits-enfants. Et je pense que quelque part, dans ce souci de conserver le journal, il y a aussi quelque part un petit peu ce fantasme de laisser pour la postérité, pour les futures générations, et qu'un jour, dans très longtemps, quand on sera décédé et que ça n'aura peut-être plus d'impact, quelqu'un lise nos écrits, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, découvre notre journal. La question d'autrui est très très présente dès les débuts du journal intime.
Cette découverte miraculeuse du journal intime de notre aïeul dans le grenier n'est pas qu'une image d'Épinal, comme le dit cette chercheuse rencontrée par Sophie Parmentier. Lorsqu'ils sortent de la poussière, par hasard ou par la volonté de leur auteur, ces carnets peuvent être archivés. L'Association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique s'est donné cette mission. Depuis plus de 30 ans, elle collecte, conserve et valorise ces textes intimes. Sophie Parmentier s'est donc rendue à l'APA, à Ambérieu-en-Bugey, entre Lyon et Genève. L'association est discrètement installée dans une petite zone industrielle entourée de montagnes. Ce jour-là, un retraité vient déposer le récit de sa vie.
Là, je crois que c'est lui qui arrive en voiture. Un vieux monsieur, cheveux gris, il a une pochette blanche sous le bras. Bonjour, c'est votre journal personnel là que vous avez sous le bras?
Oui, ça s'appelle « Ma drôle de vie ». Donc c'est de 18 à 30 ans et ma vie après de 30 à 78 ans. Donc surtout, je parle surtout du travail, puis de ma vie, quoi, de ce qui m'est arrivé.
Vous êtes accompagnée aujourd'hui?
Oui, par mon épouse.
Bonjour madame.
Bonjour.
C'est un grand jour pour vous aussi aujourd'hui d'accompagner comme ça votre époux?
Un peu le point final, je crois. Ça lui fait plaisir.
Et ce récit, vous l'avez commencé quand ?
J'avais commencé dès que j'étais en retraite. En 2022, là, j'ai écrit, mais j'avais arrêté. Ma femme n'était pas bien d'accord.
Parce qu'il y a des secrets ?
Il y a toujours des secrets. Il y a la vie, jamais un long fleuve tranquille, comme on dit.
Je crois que c'est dans ce couloir, Association pour l'autobiographie. C'est à côté des archives municipales.
Bonjour.
Bienvenue. On va s'installer, venez, on va se mettre dans la pièce là à côté, comme ça on pourra s'asseoir. Donc vous m'apportez un document que vous avez souhaité venir déposer en personne.
Je vous apporte le manuscrit de 73 pages, donc qui commence ici, miraculé à 13 ans. J'ai travaillé 43 ans dans la même entreprise.
Vous faisiez quoi ?
Eh bien, c'était ArcelorMittal, donc j'ai commencé tout bas. Hein, j'avais quel âge ? 15 ans et demi. Et donc après 17 ans et demi, j'ai travaillé sur des machines. Voilà, on va laisser une trace de ma vie. Chapitre 1er. L'école venait de reprendre. À cette époque, le jeudi était jour de repos. L'été arrivait à son terme. Je n'avais pas encore 13 ans. Nous jouions le long de la route avec mon frère, le cadet de la famille, lui n'avait que 9 ans. J'étais le 7e d'une famille de 8 enfants. Soudain, je ressentis une forte piqûre à l'intérieur et dans le bas de mon ventre. Tout de suite, je courus informer ma mère.
Donc on regroupe tout sous le titre générique « Ma drôle de vie », ça vous va ? Je ne sais pas si vous avez des enfants.
Oui, oui. On a deux filles.
On
a
des petits-enfants.
Alors ils sont prévenus du dépôt à l'appât de votre texte ?
Oui.
D'accord.
Mes deux filles, oui.
Ce qui est important aussi de redire, c'est que si elles ou leurs enfants ou leurs petits-enfants, on ne sait pas, un jour s'intéressent à l'histoire familiale et avaient envie d'en savoir plus sur vous, oui, sur leur grand-père ou arrière-grand-père, ben, le texte sera toujours là, il sera accessible. Donc c'est aussi une manière de le partager à plus long terme avec, avec votre famille, vos proches.
Ils vont pouvoir venir ici pour le lire ou le faire lire, je ne
Exactement.
Sais pas.
Exactement. Là, ça m'est arrivé récemment qu'une dame vienne lire le journal de son arrière-grand-mère. Elle ignorait qu'on avait ce texte qui date du 19e siècle et elle est descendante directe. Et elle était très très contente de le lire.
Cher journal.
Cher journal.
Cher journal.
Cher journal.
Je m'appelle Marion Vallée-Carecchio.
Et ici, quel est votre rôle à vous ?
Je suis chargée à la fois de la partie archivistique, c'est-à-dire que je traite tous les nouveaux documents qui nous parviennent.
Il y a plus d'une douzaine d'enveloppes craft, il y a des gros cartons énormes. Là, tout ça, vous venez de le recevoir il n'y a pas très longtemps.
J'ai à la fois sur cette table des documents qui me sont parvenus comme ça, de la main à la main. Et puis, effectivement, des enveloppes ou des cartons qu'on a reçus par la poste. Par an, on reçoit entre 120 et 140 dépôts. Alors, voilà. Donc là, je vois que c'est un paquet qui me vient de Paris. Et donc là, j'ai une première enveloppe, une chemise cartonnée rouge avec une lettre. Cette lettre m'indique qu'on m'envoie un journal intime, écrit entre 2021 et 2023. Un journal sur deux années qui fait 238 pages.
Donc là, c'est un homme qui vous adresse ce journal ?
Là, c'est un homme, effectivement. Et il me dit son métier, qu'il était haut fonctionnaire. Et il y a une lettre qui précède le contrat. Donc je lis cette lettre. Je découvre que la personne souhaite qu'on conserve son texte, mais qu'il ne soit pas lu pendant une période de 50 ans. C'est une modalité qu'on autorise depuis la création de l'APA.
Donc là, vous allez archiver directement ce journal.
Voilà, je vais l'archiver. Alors, au début de l'appât, on appelait ça l'armoire au secret. Ils étaient tous dans un endroit, il n'y avait que le conservateur qui avait la clé. Maintenant, ils sont dans les archives, dans la conservation de l'ensemble des textes, mais effectivement, personne ne les consulte, tout simplement parce que dans la base de données, ils n'apparaissent pas.
Autour de nous, il y a quelques valises, là. Parfois, il y a des gens qui vous apportent leurs journaux personnels dans des valises.
Heureusement, la personne n'a pas mis de code sur sa valise, parce qu'il y avait des codes.
Ah, ça, c'est une valise Bordeaux. Elle a un petit aspect verni, quelques rayures.
Donc, je l'ouvre. Ah ben, je vois qu'elle a mis une étiquette avec journal de son arrière-grand-père. Elle dit juste que c'est un journal manuscrit et qui fait 4832 pages. Donc c'est 37 cahiers et l'épaisseur totale, ça c'est une donnée qu'on pense rarement à inscrire, c'est 31 cm de haut. C'est des textes composés entre 1910 et 1934. Donc là j'ouvre ce premier carnet. Ah ben c'est émouvant.
Il y a une fleur séchée là, entre deux pages, c'est incroyable.
En 1915, une fleur séchée d'une journée de septembre 1915. Les nouvelles du front sont peu importantes aujourd'hui.
Les nouvelles du front sont peu importantes aujourd'hui.
À 10h du soir, vent d'est.
À 10h du soir, vent d'est.
Tendu, l'air un peu frais au fond.
Tendu, l'air un peu frais au fond.
Quelques nuages et étoiles au zénith.
Quelques nuages et étoiles au zénith.
Brume à l'horizon.
Brume à l'horizon.
Oh, c'est un trésor, ce journal. Allez, cette petite valise nous quitte.
Une valise remplie de précieux journaux intimes que Marion Vallée-Carecchio part déposer dans la pièce la plus protégée de l'association.
Ah, on passe une porte. Là, il y a un énorme tuyau de... Là, voilà, on entend une ventilation.
Oui, c'est parce que cette salle, elle est aux normes professionnelles. Donc, il y fait plus frais, la température est contrôlée et l'hygrométrie, grâce effectivement à ces gros tuyaux. On voit les boîtes d'archives de l'appât qui sont sur six étagères en hauteur et des rayonnages qui font au total aujourd'hui 354 mètres linéaires.
Waouh. Il y a des allées, vous devez ouvrir les allées avec des, voilà, des espèces de volants.
Il y a des allées, je vais ouvrir la première. C'est effectivement des systèmes, il faut ouvrir chacune des travées pour y accéder.
Ouais, vous tournez une manivelle là, on dirait une caverne d'Ali Baba. Là si je regarde face à nous, donc il y a des tas de pochettes multicolores, il y a des grosses boîtes. Un classeur en aspect cuir.
Celui-ci, je l'aime beaucoup, là, le 831. C'est une toute jeune fille qui avait accompagné d'une lettre son dépôt. C'est un grand cahier manuscrit, écrit à la main. On reconnaît encore la jeunesse de son écriture. Alors, écrit en 1976. Et alors, ce qui est très beau, c'est sa lettre. Elle nous envoie ses carnets qu'elle écrit depuis 5 ans. Je veux les garder secrets sans les détruire, car les gens qui m'entourent ne savent pas que ces cahiers existent. C'est pourquoi je vous demanderai de ne m'envoyer aucun courrier après leur réception, afin de ne pas éveiller les soupçons. Je sais que je les récupérerai un jour, mais en attendant, je vous les confie. Vous pouvez les lire, cela ne me dérange pas, puisque vous ne me connaissez pas, mais gardez-les secrets. Sachez que tous les événements relatés, ainsi que toutes les personnes évoquées, sont réels. Je vous remercie car vous me débarrassez d'un grand poids. Ce que j'aime beaucoup, c'est la confiance que témoigne cette jeune fille envers une association pour prendre soin de son journal intime qui raconte le plus intime, qu'elle ne veut pas partager avec ses proches. Voilà, on se dit qu'on sert à quelque chose.
Interception. Sur France Inter.
Pour comprendre ce que deviennent ces journaux intimes, restons encore un peu avec Sophie Parmentier dans les locaux de l'Association pour l'autobiographie. Ces milliers de récits de toutes époques contiennent en effet des petits morceaux d'histoire avec un grand H. C'est une malle au trésor aussi pour des chercheurs, des historiens, des scénaristes ou même pour chacun d'entre nous. Chaque mois, des bénévoles se réunissent pour lire les journaux intimes déposés, en faire un résumé qui est ensuite mis en ligne sur le site internet de l'APA. Sophie Parmentier a rencontré l'une d'entre elles.
Vous êtes Carole.
Oui.
Et quel est votre rôle ici dans l'Association pour l'autobiographie ?
J'ai créé un groupe de lecture des textes déposés à l'APA en février de l'année dernière. Nous lisons en empathie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement.
Et c'est fascinant de lire les récits intimes
alors,
des autres.
C'est à la fois fascinant et quelquefois un petit peu dérangeant. On peut lire des textes qui racontent une souffrance de vie, une maladie, des événements graves de la vie, donc qui remuent, qui nous plongent dans des dures réalités. C'est vrai que les textes peuvent révéler en effet des secrets personnels, des secrets de famille, d'enfants non déclarés, de séparation, de double vie. Il y a de tout en fait dans nos textes. Alors il y a des fois aussi j'ai eu presque des éclats de rire. Je donnerai l'exemple là d'un ensemble de journaux que j'ai lus récemment. C'était un recueil de numéros de téléphone avec des prénoms d'hommes. Et une petite appréciation à côté.
Il y avait quoi comme genre d'appréciation ?
Très bien. Disons, j'ai interprété comme le carnet de bord d'une dame qui vit peut-être de ses charmes, je sais pas, et qui note au fur et à mesure, avec le numéro de téléphone, le prénom, l'appréciation qu'elle a pu faire sur la rencontre qu'elle est amoureuse, sexuelle qu'elle a pu faire. Donc ça, à la fois, c'est un éclat de rire, puis je me dis, mais cette dame, elle envoie anonymement. Qu'est-ce que l'APA peut en faire ? Est-ce que c'est considéré comme une autobiographie, puisqu'il n'y a quasiment aucun texte, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas d'explication sur ce qui se passe ? Donc c'est un peu mystérieux.
On peut confier à l'APA toutes sortes de récits intimes, journaux manuscrits ou dactylographiés. L'association recueille aussi des autobiographies sous forme de vidéos. Il y a aussi des correspondances, des lettres d'amoureux qui se sont écrits passionnément. Et parfois, ce sont les héritiers qui viennent les déposer.
Je m'appelle Claudine Verdict.
Vous avez découvert ce que vous appelez un trésor ?
Oui. C'est la correspondance de mes parents, après leur rencontre en juillet 40, que j'ai trouvée dans le garage de ma sœur décédée. Et je suis tombée par un hasard fou sur cette correspondance dont je n'avais jamais entendu parler, en tout cas pas précisément.
Ça, c'est la première lettre que vous ayez trouvée.
Oui, celle-ci, du 11 août.
11 août 1940.
1940, voilà. Il faut imaginer que mon père n'a même pas 21 ans. Ma chère petite Lina, excuse mon écriture qui ne sera peut-être pas très lisible, mais le train remue pas mal. Nous sommes en ce moment à Toulouse, il fait un soleil merveilleux et je pense qu'à Saint-Pardoux c'est la même chose. Aussi, notre cafard est un peu moins grand. Si tu savais, Lina, comme j'ai le cafard. Mais il faut se faire une raison. Bientôt, je serai là-bas en Algérie et bientôt aussi, je serai de retour à Rejviller.
Donc là, ils se sont rencontrés un mois plus tôt, ils se sont fiancés aussitôt et là, ils s'écrivent.
Elle était la femme de sa vie et lui, il était l'homme de sa vie.
Donc lui, il écrit d'une petite écriture noire, penchée. Elle écrit un peu plus gros, très consciencieusement, avec une plume bleue.
Voilà.
Quand vous avez trouvé ces lettres, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Je me suis dit, quelle surprise, quel trésor. Donc oui, j'étais très très émue. Et puis bon, j'ai beaucoup hésité à rentrer dans leur intimité.
Est-ce que ça a été facile pour vous de prendre la décision de rendre public ces lettres très intimes. Et vous n'aviez pas l'aval de vos parents, sauf en pensée.
C'est d'autant plus difficile que je n'ai plus de frères et sœurs avec lesquels partager. Ça a été difficile. Ça continue de l'être.
Quelles questions on se pose ? Est-ce que j'ai le droit de rendre public ces courriers intimes ? On peut se dire que dans les familles, souvent, il y a des débats autour de ces questions. Et vous n'avez pas pu avoir de débat avec vos frères et sœurs disparus ou...
Tout étant si beau dans ce qu'ils se disent, ils ne pouvaient pas dire non. Ils n'ont pas dit non, d'ailleurs. Voilà.
Donc, toutes les lettres de votre père commencent par « ma petite chérie » ou « ma petite Lina ».
Oui, ma chère petite Lina. Mon amour, mon grand fou, tu me rends folle. Tu t'impatientes pour rien, ça c'est ma mère. Le 20 août de Saint-Pardoux. Mon Jacques chéri, aujourd'hui je suis triste, j'ai le cafard, je ne sais pourquoi. Je suis seule, papa, maman et Frédéric sont partis ce matin arracher les pommes de terre pour Madame Joanie. J'étais seule avec grand-père. J'ai fait le ménage et tout le temps j'ai pensé « Oh, si cela pouvait être Jacques à la place de grand-père, comme ce serait gai et amusant. » Et à la fin de sa lettre, « Est-ce qu'il ne pourrait pas inventer un truc pour qu'on puisse s'embrasser pour de bon par lettre ou télégramme ?» Je trouve ça beau, vraiment.
Les écrits en héritage. Michel Vanet en a feuilleté pendant des décennies. Il a été le conservateur de l'Association pour l'autobiographie, son président. Et pour lui, l'autobiographie, c'est aussi une histoire de famille. Un jour, son père s'est pris au jeu et il s'est mis à écrire sa vie.
Je parlais beaucoup d'autobiographie à la maison. Évidemment, je prenais mon déjeuner avec mes parents. J'habitais un étage de la maison familiale. Et mon père, du haut de l'escalier, m'a dit « Regarde, j'ai plongé ». Effectivement, il avait plongé dans l'écriture, mais il avait aussi plongé dans son bassin à truites au mois de mars. Et il avait failli mourir parce que l'eau était très froide dans ce bassin, 14 degrés. Et puis il avait un peu bu, il était à un dîner de famille à quelques kilomètres. Bref, ça lui a donné l'idée de raconter toutes les fois où il a failli mourir. Alors il a raconté ça, mais ça ne faisait que 30 pages. Ça ne faisait pas un récit de vie. Alors il a changé son fusil d'épaule, comme il dit, parce qu'il était chasseur, et il a fait un grand récit chronologique.
Il avait quel âge, votre père, quand il a commencé ce récit autobiographique ?
Il a écrit à 70 ans. C'est à 70 ans qu'il est tombé dans le bassin à truites.
Vous avez découvert des choses de la vie de votre père ? Et de vos parents, peut-être même, à travers le récit qu'il a fait à la fin de sa vie.
Alors oui, y compris la nuit de noces. Ma mère a protesté violemment. Il a dit, mais moi, j'ai juré de dire la vérité. Alors elle lui disait, mais je vais te faire un procès. Et là, il répondait, mais non, c'est ça l'autobiographie, c'est dire la vérité. Vous savez, il y a la tradition qui veut que les mariés se sauvent et toute la noce doit les rechercher. Et en fait, en se sauvant, ils sont escaladés un muret et ils sont tombés les deux pieds dans le lisier de la fosse septique. Donc, ça commençait bien, la belle robe blanche de ma mère, elle était parfumée, vous voyez, ça a commencé comme un jour de chance, les pieds dans la boue.
Et vous êtes né longtemps après ?
Je suis né 4 ans après, oui, il décrit tout ça, il est très heureux de ma naissance. Ah oui, ça y est, c'est là.
1949.
De 14 ans à 49 arriva avec la venue au monde de notre premier enfant.
C'est vous.
C'est moi. J'appris la nouvelle, dit mon père, au téléphone de la voisine en face de la Maison Rouge. J'avais un fils. Fou de joie, je m'élançai du couloir, l'écouteur à l'oreille, et arrachai le fil. Je pris le premier train à destination de Bourg et en toute hâte me rendis à la maternité. Dès que je vis cette petite frimousse grimaçante, je m'écriai « Mais il n'a pas de menton !» Et ma déconvenue augmenta quand Jeannette m'apprit qu'elle était encore dans les vapes, elle avait interverti les prénoms « Gérard Michel » au lieu de « Michel Gérard ».
Vous êtes fier que votre père ait écrit ce récit autobiographique ?
Oui, parce que vraiment, il y a des moments où il atteint la littérature. Vraiment. Oui, je suis très fier de lui.
Depuis quand écrivez-vous votre journal ?
J'ai commencé à l'âge de 11 ans, quand j'ai su qu'à cause de la séparation de mes parents, ma mère nous amenait en Amérique.
Anaïs Nin.
Enfin, c'était l'endroit où je disais, j'enfermais mes démons, si j'étais triste, si j'étais mélancolique, si j'avais à me plaindre, tout ce que je trouvais qui n'allait pas bien avec mon rôle de femme.
C'était mon journal que j'ai démarré à 12 ans à l'internat, dans la solitude de l'internat finalement.
Jane Birkin.
C'est un remède assez bien, pas de les publier, mais de les écrire si on est malheureux ou si on n'a pas à qui se confier. Après, on peut rigoler de les bêtises qui semblaient si importantes quand on était petit.
Voilà. Ils sont là, alignés, les uns contre les autres. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Et je pense qu'il y en a dans mon placard aussi, de chambre.
Il y en a partout chez vous.
Oui, il y en a partout. Intime. Il y en a dans le placard, dans l'entrée aussi. Et il y en a beaucoup chez mes parents. Là, vous voyez, je me suis mise une alerte parce qu'il faut que je m'achète mon cahier journal de 2025. Je m'appelle Laurence de Villers, donc je suis, comment on appelle ça, diariste. J'écris un journal intime depuis l'âge de 8 ans et j'ai 55 ans, donc ça en fait. Donc il y a un cahier par année et je suis philosophe.
Vous diriez que c'est quoi la philosophie d'un journal intime ?
Je pense que c'est une volonté d'approcher du mystère. Vraiment, je crois que soi-même, et là je le dis, je sais que ça va à l'encontre de ce qu'on peut dire de nos jours, où il faut se connaître, se trouver, s'accomplir, se développer. Moi, je crois pas qu'on se connaisse. Je crois que vraiment, on est la dernière personne qu'on puisse connaître. Il y a une opacité de soi à soi, et ça, ce cahier essaie d'être au clair avec soi. C'est une question de lumière. Pour moi, c'est être au clair, sans y parvenir. Mais je crois que ça reste un mystère de vivre et d'avoir vécu. C'est qui celle que j'étais ? Elle est à la fois plus là et vivante en moi. C'est qui celle que je serai ? Pour moi, c'est vraiment un exercice philosophique et de vie, et qui est d'essayer de m'attraper. Alors quelqu'un comme moi, qui suis vraiment pudique et en même temps qui supporte pas qu'on me mette la main dessus, j'essaie pourtant moi-même de me capturer. Donc, je sais pas, l'image que je vous donnerais, et pourtant, c'est pas quelque chose que je pratique, je milite plutôt contre, mais c'est la chasse. Je suis à l'affût de moi-même et je me chasse moi-même. C'est tellement plus difficile que de se regarder dans la glace, parce que, vous voyez, même la glace, c'est pas moi, puisque c'est le reflet inversé de moi. Le journal intime, j'essaie de me dire, c'est moi. Et même quand je suis pressée, il faut absolument que j'écrive mon cahier journal parce que j'ai l'impression que ma journée va être boiteuse. Je dois avouer qu'il y a aussi une fonction thérapeutique, c'est que quand j'ai été accablée par la tristesse qui arrive, et ben quand même il y a de la vie sous cette tristesse parce que je peux écrire, donc elle m'a pas totalement vaincue. Et puis quand je suis submergée par la colère, et alors là, de l'écrire, ça m'aide énormément. Parce que j'y mets des mots. Donc, c'est un remède à la mélancolie et à la rage. Le but est quand même d'écrire des choses que je dirai à personne. Personne.
Si je vous demande de partager une page avec nous au micro, c'est difficile pour vous.
Ah oui, parce que c'est vraiment... c'est hyper intime. Je sais même pas s'il y en a une seule que je pourrais vous lire. De quand il date celui-là ? 2020. Le printemps arrive, donc c'est le 2 mars, et c'est comme une bonne volonté, même si le monde est trop souvent pour moi un objet de désespoir. Ah voilà, et là ça devient plus intime immédiatement. Enfin, vous voyez, donc quelle horreur. Ah là, départ pour Vienne, j'appréhende toujours. Bon bref, après c'est trop intime.
Vous pensez que vous écrirez jusqu'au dernier jour de votre vie ?
Ah ouais, j'espère être en mesure de pouvoir le faire, ouais. Pour moi, c'est vraiment comme écrire dans le sable. Alors oui, il y a une vague qui passera et qui effacera cette journée, mais n'empêche que j'ai écrit dans le sable. Et ça restera. Donc je crois que c'est cette volonté de l'humain de conjurer, non pas le sort, c'est pas le sort qu'on conjure, c'est le temps. Je crois.
Cher journal, c'était un reportage de Sophie Parmentier. Réalisation Lucie Lemarchand, assistée de Martine Messonnier. Mixage Nicolas Depagraf. Pour réécouter cette émission, les précédentes et les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast d'Interception sur l'application Radio France.